VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Ouagadougou, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Sénégal, le tribunal spécial africain ayant jugé à Dakar l'ex-président tchadien Hissène Habré a confirmé ce jeudi en appel sa condamnation à la prison à vie prononcée en 2016 pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Jugement définitif rendu en l'absence de l'accusé par le magistrat malien Wafi Ogadeï, président de la Cour. L'ex-président Habré a en revanche été acquitté de l'accusation de viol, décision qui ne change pas le verdict, selon le juge Ogadeï. Tchad toujours, comparution des trois activistes de la société civile détenus ce mois-ci par les autorités au parquet d'instance de N'Djamena ce matin. Le procureur de la République a réclamé 5 ans d'emprisonnement ferme contre Nadjo Kaina et Bertrand Solon Gandjei, tous deux membres du mouvement citoyen IINA et de la campagne Tournons la page. Ils sont accusés de tentatives de complot et incitation aux attroupements non autorisés. Les délibérations sont prévues pour le 4 mai prochain. Le troisième activiste détenu, Digam Nayel Nelly Versinis, du collectif tchadien contre la vie chère, sera situé sur son sort dans les heures qui suivent. Amnesty International appelle à la libération de ces trois activistes. Les explications de Balki Saïdé Sido, une responsable de cette organisation de défense des droits humains.
Dans un état de droit, un état où il y a la démocratie, tout le monde a le droit de s'exprimer. Et critiquer un gouvernement n'est pas une violation, ce n'est pas un crime. Tout individu a le droit de s'exprimer quant à la manière dont le pays est dirigé, quant aux droits humains, quant à la malgouvernance. Il s'agit juste de l'exercice du droit à la liberté d'expression. Et ça, c'est un droit fondamental auquel tout individu a le droit. Nous pensons que ces trois prisonniers d'opinion n'auraient jamais dû être arrêtés, déjà en premier lieu, avant même de parler de procès. Et les autorités doivent les libérer immédiatement et sans aucune condition,
ce
qui n'est pas normal.
Balki Saïdé Sido d'Amnesty International, jointe à Dakar. En RDC, signature aujourd'hui de l'arrangement particulier de l'accord du 31 décembre, les présidents des deux chambres du Parlement ont convoqué les partis au dialogue à cette cérémonie, mais la frange radicale du rassemblement d'opposition boude Eddy Issango.
L'aile du rassemblement dirigée par Félix Tshisekedi s'est dit non concernée par cette cérémonie et sollicite de rencontrer le président Joseph Kabila. Elle avait pourtant boycotté les consultations que M. Kabila avait tenues sur recommandation des évêques début avril avant la nomination du Premier ministre. Toutes les institutions sont caduques car les élections n'ont pas été organisées. Les présidents des deux chambres du Parlement n'ont pas mandat pour convoquer une réunion des signatures de l'accord, a indiqué à VOA Afrique Martin Fayoulou, membre de cette frange du rassemblement Félix Tshisekedi. Aucune invitation formelle ne leur a été adressée, précise-t-il. La CENTCO, conférence des évêques catholiques, elle, dit ne pas avoir reçu d'invitation non plus. Mais elle avait, 2 jours plus tôt, qualifié d'entorse à l'accord la nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre. La majorité présidentielle estime que les prélats ont terminé leur travail. Elle laisse tout de même la porte ouverte pour la poursuite des discussions avec les durs de l'opposition.
En Angola voisin, le président José Eduardo dos Santos a signé un décret ordonnant l'organisation d'élections générales le 23 août. Information communiquée mercredi par la Radio Nationale, Jacques Aristide.
Cette annonce vient confirmer la proposition du Conseil national de la République, organe présidentiel chargé des consultations sur les décisions à caractère national. Âgé de 74 ans, José Eduardo dos Santos va quitter son poste après 38 ans à la tête du pays. Il conservera toutefois la présidence de son mouvement politique, le MPLA, ce qui lui permettra de maintenir une influence non négligeable sur les affaires du pays. Au pouvoir depuis 1975, année de l'indépendance angolaise, le MPLA choisit João Lourenço, ministre de la Défense, pour le représenter au scrutin présidentiel.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burkina Faso, report au 4 mai de l'ouverture du procès des 34 ministres du dernier gouvernement de l'ex-président Blaise Compaoré pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui a conduit à la chute du régime Compaoré. Ouverture prévue en principe ce jeudi. L'ancien chef de l'État est cité à comparaître, non pas en tant que président, mais comme ministre de la Défense, portefeuille sur lequel il gardait la haute main. En exil à Abidjan depuis son renversement après 27 ans de pouvoir, Blaise Compaoré n'était pas dans le box des accusés aujourd'hui. Mais le général Gilbert Diendéré, auteur du putsch raté de 2015 et incarcéré depuis, était présent dans la salle d'audience de la Haute Cour de justice de Ouagadougou en tant que témoin. Au Mali, 3,8 millions de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire. C'est ce qui ressort d'un point de presse du PAM, le Programme alimentaire mondial. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
De 2016 à 2017, l'insécurité alimentaire s'est aggravée au Mali. Parmi les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest concernés par le cadre harmonisé du CILS, l'insécurité alimentaire a reculé partout sauf au Mali. Cecilia Abs, responsable à la communication et management du PAM.
Les résultats pour le Mali sont assez préoccupants puisque l'insécurité alimentaire sera pire pour la période de soudure que celle de l'an dernier. Pour le Mali, nous aurons plus de 3,8 millions de personnes qui sont considérées comme en insécurité alimentaire, dont près de 601 000 personnes qui seront en situation de crise et d'urgence alimentaire. C'est 800 000 personnes de plus que l'an dernier au Mali, à la même période.
C'est pour cela que le PAM est préoccupé à trouver une solution aux côtés des autres partenaires humanitaires qui appuient le gouvernement malien. Pour ce faire, le programme alimentaire a besoin de 34,2 millions de dollars américains. 21 millions sont déjà acquis, soit 61% des besoins. Il existe donc un déficit de financement de l'ordre de 13,2 millions de francs CFA de dollars US. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, tracasserie, vol, harcèlement sexuel, pourrissement des marchandises, c'est le lot quotidien des commerçants qui exercent leurs activités entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Kayi Lawson, notre correspondante à Lomé au Togo, nous amène dans leur univers.
Le commerce sur l'axe côtier entre le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire est d'autant plus difficile pour les femmes avec des pertes économiques assez consistantes. C'est ce que révèle une étude sur les problèmes auxquels les commerçants sont confrontés sur le corridor Abidjan-Lagos. Faridat Achambi Aboudou, chargée de recherche au laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale.
Il y a des femmes qui sont dans le commerce des marchés capillaires. Ça veut dire on prend de la zone de production, on ramène vers la frontière, une autre prend de la frontière, traverse et l'amène de l'autre côté. Une autre femme prend de ce marché, amène sur un marché un peu plus loin, ainsi de suite. Et voilà comment le relais se fait jusqu'à ce que ces produits arrivent sur les marchés terminaux. Ces femmes ne sont pas souvent propriétaires de véhicules, donc elles sont souvent à la merci des transporteurs. Quand un transporteur le fait faux bond, il peut arriver que la femme pète énormément du fait que le produit soit endommagé, du fait des délais importants d'acheminement de produits, elle peut enregistrer de nombreuses pertes.
Parmi les difficultés recensées figurent le vol et le harcèlement sexuel dont 7,8% des enquêtés affirment avoir été victimes. Jeannette Adjassou, commerçante de fruits et légumes entre le Togo et le Bénin.
C'est dans la nuit qu'on vient prendre les bagages. Ce n'est pas en sécurité. Des fois, c'est des viols. Des fois, c'est des vols. Et c'est trop risqué. Nous sommes nombreuses. On quitte, par exemple, le Nigeria. On quitte au Bénin. Il y a des femmes qui viennent du Ghana. Et on passe la nuit ensemble et on est des victimes des fois.
L'ignorance expose ces commerçantes et constitue une des causes de la cherté des produits sur le marché final, nous dit Florent Patindé, spécialiste de l'information commerciale à l'Alliance Bordalès.
Les femmes sont ignorantes des tests qui régissent le commerce et le transport dans la sous-région. Lorsque, en face de cette méconnaissance des tests, elles se font réclamer des choses et la plupart du temps, les femmes payent des sommes colossales qu'ils ne doivent pas payer. Et lorsqu'ils payent ces sommes colossales pour pouvoir traverser une marchandise qui n'a pas grande valeur, le consommateur final de ce produit va l'acheter cher parce que à la frontière, peut-être, il y a eu des renseignements qui ont renchéri le coût de cession de ce produit sur le marché final.
Le constat ainsi fait, les commerçantes soumettent des doléances et recommandations.
Nous, les commerçants, nous voulons sincèrement qu'on fasse une carte ou bien un document qui va nous permettre de traverser librement.
Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Et pour terminer, les trois pays signataires du traité de libre-échange nord-américain ALENA, à savoir les États-Unis, le Mexique et le Canada, prévoient de renégocier rapidement cet accord commercial. C'est ce qu'a affirmé hier soir la Maison-Blanche. Ce traité est qualifié de désastre par le président américain Donald Trump. Okay.